Bonjour à tous. Sept personnes sont sur un bateau qui tombe à l'eau. Après le succès de Tristesse, Anne-Cécile Vandalem nous embarque à nouveau pour le Grand Nord avec sa nouvelle création Arctique, présentée au Festival d'Avignon jusqu'au 24 juillet. À bord du paquebot Arctic Serenity, le futur semble aussi glacial que les mers polaires. Un huis clos théâtral, un écran vidéo, un orchestre sur scène, et voilà que l'imaginaire angoissant s'étend au-delà des murs de la salle. Du Danemark au Groenland, une fiction d'anticipation qui entreprend de faire grincer les enjeux politiques, écologiques et financiers du changement climatique. À bord du maudit bateau se joue un thriller palpitant porté par de truculents anti-héros tout droit sortis des frères Cohen. Puis nous continuerons notre immersion théâtrale en compagnie du comédien nageur Maxime Tafanel, actuellement à l'affiche de la pièce 100 mètres papillon. Nous allons parler de dystopie polaire et de catastrophe climatique avec la metteuse en scène Anne-Cécile Vandalem. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de votre pièce Arctique qui se joue à Avignon jusqu'au 24 juillet. Alors Arctique, ça commence par une fiction. Vous vous dites une fable d'anticipation ?
Oui, tout à fait.
C'est ce terme-là que vous employez ?
Oui, bah oui, parce que c'est une pure hypothèse. Voilà, complètement fictionnel que j'ai imaginé à partir d'observations que j'ai fait au Groenland et avec des experts sur les questions, les enjeux actuels de l'Arctique et l'hypothèse qui est amenée dans Arctique est une hypothèse parmi d'autres, mais est bien réelle, c'est-à-dire le futur du Groenland dans le contexte des enjeux de l'Arctique pourrait être celui qui est raconté dans Arctique, mais peut-être pas, je l'espère.
Alors les enjeux, ce sont des enjeux liés au départ aux ressources naturelles, hein, que la fonte des glaces ont rendu plus facilement exploitables, paradoxalement, et qui du coup servent des intérêts financiers.
Tout à fait, il faut savoir que la course, la ruée vers le nord a commencé à peu près en 2009, lorsque la Russie en fait a revendiqué une grande partie des territoires arctiques. Toutes les grandes puissances ont décidé de revendiquer en fait leur partie, parce qu'on sait que les mers arctiques recèlent en fait tout ce qu'il reste des ressources naturelles en hydrocarbures, mais pas que, en terres rares, enfin, nombreux matériaux nécessaires pour les technologies et autres d'aujourd'hui. Et donc, notamment au Groenland, en fait, les grandes puissances pétrolières, notamment, sont venues fouiller les sols en 2009, entre 2009 et 2014, avec vraiment l'espoir, c'était vraiment une ruée, comme une ruée vers l'or, mais ils ont vraiment eu un grand espoir de pouvoir trouver des hydrocarbures, notamment. Et ça a éveillé, en fait, aussi un très grand espoir chez les Groenlandais, puisque
de développement d'amélioration de leurs conditions de vie.
Voilà, il faut savoir que le Groenland a négocié avec le Danemark son indépendance. Le Groenland est pour l'instant toujours n'est pas un pays, donc il n'est pas autonome du Danemark. Il a négocié son autonomie à condition qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Pour l'instant, 50% de ses besoins et ses ressources économiques lui sont versés par le Danemark, ce qui correspond à plus ou moins à 4 milliards de couronnes. Et donc ils les ont négociés avec le Danemark. Le jour où il serait totalement autosuffisant économiquement, il pourrait devenir indépendant.
Alors on parle de ce Groenland matériel, mais de même que dans votre pièce précédente Tristesse, il est question aussi d'une terre imaginaire facilitée par l'imaginaire que peut aussi provoquer ce grand iceberg qu'est le Groenland, cette île aussi inatteignable justement qui crée un périple, une véritable odyssée pour la rejoindre aussi, Cécile Vandalem. C'est une terre qui fait rêver de par ce grand blanc, ces glaces.
C'est une terre qui m'a toujours fait rêver, en tout cas moi personnellement, et pas que moi. C'est vraiment un lieu, un réservoir d'imaginaire et de fantasmes pour énormément de monde. Le problème justement, c'est que plus on s'en rapproche et plus on rend en fait accessible, notamment ce passage du Nord-Ouest, plus on le rend accessible, notamment par des croisières de luxe extrêmement chères et qui sont des catastrophes écologiques, plus finalement en fait ce territoire de l'imaginaire et du fantasme est en train de se détruire. Donc c'est un des derniers territoires qui n'était pas encore vraiment conquis par l'homme, qui est en train d'être vendu, exploité, qui est mis en danger par ces exploitations.
On a évoqué le nom de Tristesse. Tristesse, c'était votre création précédente. Est-ce que ça fait partie d'un ensemble, puisque vous aimez bien les ensembles par trois, les trilogies, est-ce que ça serait le deuxième volet d'une trilogie arctique ?
C'est comme ça que je l'annonce. Après, je suis toujours prudente et je dis toujours après ça, on ne sait jamais s'il y en aura trois ou quatre ou pas, deux, ou pas d'autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai le Nord, la découvre. Enfin, les recherches que j'ai faites dans le Nord, que ce soit au Danemark, que ce soit au Groenland, et puis actuellement, maintenant, je suis plus tournée vers le passage du Nord-Est, vers la Russie et la Sibérie, recèlent vraiment des vrais enjeux pour les 10-15 prochaines années, qui sont en fait matière à écriture, pour l'instant, pour moi, qui n'est pas encore tari, quoi. J'ai encore beaucoup à écrire là-dessus. Donc oui, il y aura sans doute un troisième spectacle, mais qui se passera plutôt du côté de l'autre côté.
Donc c'est les ressources naturelles théâtrales que vous cherchez à exploiter du côté des matériaux fictionnels.
Moi aussi, je pille.
Alors vous, le Grand Nord, pourquoi le sujet du Grand Nord ? On voit effectivement ce point commun à la fois de l'insularité, qui était aussi le sujet de Tristesse, d'une fiction politique, même géopolitique d'une certaine manière, et ce rapport que vous avez aussi à l'actualité. D'une certaine manière, mais d'une actualité plus géographiquement plus loin de l'Europe qu'on pourrait le croire, en tout cas de notre Europe du Sud.
Mais effectivement, on pourrait se dire effectivement que l'enjeu du Groenland quelque part ne nous concerne pas complètement et que c'est assez loin et que. Mais en fait, quand j'ai voyagé au Groenland, je ne savais pas exactement sur quoi j'allais écrire. Je me suis rendu compte que ce qui est en train de se passer maintenant au Groenland et en Arctique nous concerne, nous concerne déjà parce qu'il nous concernera absolument dans les 10-15 prochaines années. Donc effectivement, ça peut paraître loin, mais ça n'est pas si loin que ça. La question du réchauffement climatique, elle démarre là-bas, mais elle a des répercussions partout. Et donc effectivement, moi, ça me semblait assez urgent de m'emparer de ce sujet parce qu'aussi, je pense qu'on va s'en rendre compte, qu'on en parle de plus en plus. Chaque jour, en fait, un article maintenant est écrit sur les questions de la distribution, en fait, de ce territoire arctique qui est en train de se faire entre, je le redis, les grandes puissances à l'insu de tout le monde, en fait.
Alors, il y avait dans Tristesse la thématique du populisme rampant et des sociétés, justement, qui sont soumises. Il y a les questions écologiques qui ne sont pas dénuées, bien au contraire, de questions politiques très fortes dans ce sujet-là. Mais il y a aussi la fiction qui émerge avec ces personnages. On va en écouter un extrait.
Vous n'aurez accès qu'à la salle principale durant l'ensemble de la traversée. N'essayez pas de rejoindre les couloirs, ils sont condamnés. Et essayez pas d'allumer les interrupteurs, il n'y a pas d'électricité tant que nous n'aurons pas démarré.
Il y a un moteur au moins. Je disais parce que je sais bien qu'il n'y a pas de moteur, justement.
Ok, we are ready for sailing, over and out.
Nous sommes le 13 décembre 2025 et me voici au cœur de l'Arctique Serenity. 10 ans après le tragique accident, survenu la nuit du 19 mai 2015, où le navire, tout juste inauguré, a percuté de plein fouet une plateforme pétrolière.
Anne-Cécile Vandalem, on entend un extrait de cette pièce. Alors, on se situe dans le futur. Donc, c'est aussi ce prisme que vous utilisez régulièrement, avec à la fois un futur qui permet d'imaginer, mais un futur proche, donc, qui nous concerne tout de suite, qui va nous concerner.
Oui, je reviens juste à ce que vous disiez avant de passer l'extrait sur la question de la fiction qui est très importante pour moi, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que je revendique, même si je me documente énormément. L'aboutissement de mon travail, c'est quand même l'écriture d'histoires. Et c'est vrai que ces histoires, je pars d'un matériau actuel, c'est-à-dire de l'actualité, mais pour pouvoir le transcender, justement, ce qui fait la différence avec le document, c'est que je le dépasse, j'essaye de le dépasser, de le transcender, et donc de le projeter, mais pas de le projeter à des dizaines d'années. Mais ici, on est autour de 10-15 ans. Tristesse, j'avais projeté ça plus loin, mais le temps se resserrant avec ça s'approche de plus en plus. C'est important pour moi à la fois de ne pas coller au présent, parce que c'est important de dire que ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas la réalité, c'est une projection. et une forme d'alerte qui est lancée, qui répond à une problématique réelle, actuelle, mais qui pourrait ou pas trouver son issue de la manière dont je le raconte fictionnellement, du parti pris que je prends. Et c'est important pour moi parce que ces questions-là, c'est l'avenir du Groenland, l'avenir de l'Arctique, et puis la façon dont on va pouvoir ou pas traiter notre volonté de toujours dépasser les limites, de toujours repousser les limites de ce qu'on peut conquérir ou pas, de ce qu'on peut exploiter ou pas. Je pense que c'est dans les cinq prochaines années que ces décisions doivent se prendre. On le sait, dans la question de la planète, la plupart des gens disent que c'est déjà trop tard. Donc c'est maintenant que les décisions doivent se prendre pour que, possiblement, dans les 5-10 prochaines années, la situation, en tout cas politique, écologique, je pense que c'est trop tard, mais politique puisse, les bonnes décisions politiques puissent se prendre.
Sauf que la situation écologique, elle peut encore s'aggraver aussi. Là, dans la manière dont vous mettez justement cette thématique en scène, il y a ce que vous faites quand même aux spectateurs. Il y a cet humour grinçant, très angoissant. Vous créez cet univers de huis clos et peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. On est sur le paquebot, mais il y a ce dispositif vidéo qui nous fait imaginer un espace qu'en réalité on ne voit pas tout à fait puisqu'on est sur des systèmes de gros plans assez régulièrement, et qui fait qu'on est un peu prisonnier, mais en même temps prisonnier dans une atmosphère très drôle.
Oui, alors quand j'ai choisi, enfin, mon histoire se passe à bord de ce bateau, on s'est évidemment posé beaucoup la question de ce paquebot de croisière. Qui part d'une vraie histoire, le bateau s'appelle le Crystal Serenity. Comment en fait rendre ce bateau et le faire exister sur le plateau? Et on a fait pas mal de recherches et puis en fait on s'est rendu compte de nouveau comment le hors-champ, en fait, justement l'utilisation de la caméra à travers le hors-champ pouvait nous donner la possibilité de raconter ce bateau, l'immensité du bateau, c'est-à-dire ne pas donner à voir les espaces concrètement, ne les pas les rendre concrets, mais simplement les suggérer à travers de nombreux espaces qui sont là physiquement, puisque tout est joué en direct, rien n'est visible du spectateur, donc c'est une confiance que le spectateur doit faire, de dire effectivement le hors-champ existe, il se passe, ce qui est en train de se passer, je ne le vois pas, mais c'est réellement en train de se passer derrière, et en fait la suggestion, de travailler beaucoup plus sur la suggestion que sur la figuration, et donc c'est pour ça qu'aussi on ne voit jamais les contours et les délimitations de ces couloirs, les débuts, les fins, on travaille plutôt sur l'idée du gros plan.
Et en même temps, vous reprenez à votre compte aussi tout cet imaginaire cinématographique, à la fois aux allusions, on reconnaît ça aux allusions que vous faites à Titanic un peu dès le début, il y a aussi cette idée de tragédie qui va émerger, et puis il y a ces personnages qui font penser aux frères Cohen, il y a ces personnages un peu losers, un peu enfermés, un peu difficiles, qui créent une situation comique au milieu d'une situation dramatique.
Absolument. Alors, c'est ce que je dis toujours aux acteurs, c'est ce sont des personnages extrêmement ordinaires dans des situations extraordinaires. Donc, ce sont des perdants. Moi, j'aime écrire sur les perdants. J'aime les perdants. Je trouve que les perdants sont plus intéressants que les gagnants. Et c'est toujours eux qui parlent, qui agissent dans mes histoires. Donc, effectivement, c'est important pour moi d'avoir ce contrepoids aussi. Parce que je pense que voilà, c'est plus intéressant de parler des personnages ordinaires. Nous sommes des personnages ordinaires qui sont mis de plus en plus face à des situations extraordinaires qui ne devraient pas avoir lieu, qu'on tolère, qu'on laisse se passer, et donc des tragédies aussi. Et c'est pour moi cette contradiction, en tout cas ce frottement entre ces personnages plongés dans des situations extrêmes. Ils rentrent, dès lors qu'ils rentrent dans ce bateau, ils sont dans une situation extraordinaire. Déjà, le fait que clandestinement ils montent dans un bateau qui n'a plus de moteur.
Alors peut-être qu'il faudrait raconter un peu plus de l'histoire pour qu'on comprenne. Hein. Ce bateau se retrouve bloqué.
Donc en fait, ce bateau a eu un accident et a été à quai pendant 10 ans au Danemark. Et puis il est remorqué pour être ramené au Groenland. Et à bord de ce bateau embarquent clandestinement un soir 6 passagers. Qui vont faire une traversée clandestine. Ils ne sont pas censés être à bord de ce bateau. Ce bateau n'a pas de moteur. Ce bateau est tracté par un remorqueur. Et puis, au bout du troisième jour de traversée, ils se réveillent et ils se rendent compte que le remorqueur qui les tractait les a abandonnés. Et donc là, à partir de ce moment-là, ils sont
Prisonnier.
Prisonnier de ce bateau, prisonnier de la mer, et puis cette mer qui va, ce bateau qui va continuer à dériver jusqu'à rester bloqué dans les glaces.
Alors, comme dans tout, les faits divers, ce qui peut paraître intéressant d'un point de vue dramaturgique, c'est aussi de mettre en cohabitation des personnages qui ne pourraient pas se côtoyer dans la vie ordinaire. Donc, il y a une ex-première ministre avec une activiste repentie, il y a le personnage de celle qu'on appelle la bourgeoise, la veuve. Donc, il y a ces contrastes entre les personnages qui sont en situation un peu de survie.
Oui, mais c'est ça qui... Alors c'est ça qui nous a posé aussi pas mal de problèmes en création, parce que c'est pas toujours simple. On travaille avec des enjeux qui ressemblent plus à des enjeux du cinéma qu'à des enjeux du théâtre, c'est-à-dire faire survivre des gens à bord d'un bateau avec les moyens du théâtre, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on peut pas raconter comment on raconte la tempête, comment on raconte souvent dans toute le... On s'est beaucoup nourri des histoires de bateaux, de passagers qui sont coincés dans les... Il y a souvent des requins qui arrivent, il y a la tempête, il y a des choses, voilà. Donc on a essayé de traduire ça aussi théâtralement et de voir comment on pouvait retrouver finalement toute la pression de l'extérieur, parce que le danger, effectivement, ils sont vite coincés, c'est-à-dire ils peuvent pas... Donc, à moins qu'un autre bateau passe, ils sont coincés. Donc finalement, les ressources, ils vont devoir les trouver en eux, ils vont devoir apprendre à cohabiter, à survivre entre eux. Et là, se mettent en place, évidemment, tous les schémas de la cruauté liés à la survie, du mensonge, de la trahison, etc. Donc c'est évidemment tous ces conflits-là qui, à la fois, naissent et font découvrir les personnages, parce qu'au départ du spectacle, on ne sait pas qui sont ces personnages. Et
en plus, ils sont emmitouflés puisqu'ils ont froid. On est dans une situation thermique un peu extrême, donc ils sont tous tellement emmitouflés qu'on les voit peu, qu'on les découvre d'ailleurs souvent à la caméra, hein, grâce à l'écran. Puisque...
Oui, il y a la lumière qui fait que le bateau n'est pas très éclairé, donc effectivement, on les voit peu, ils sont très emmitouflés. Et ça, c'était vraiment la volonté de raconter. Ces personnages se cachent, c'est-à-dire qu'une des thématiques principales de l'histoire, c'est la question de la trahison. Donc comment on se dissimule, comment la vérité est dissimulée et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de la faire surgir et comment en fait tous ces personnages ont trahi à un moment donné, que ce soit leurs convictions, que ce soit leurs engagements, que ce soit les autres. Chacun a trahi quelqu'un d'autre et en fait on se rend compte qu'ils se sont tous quelque part trahis et en fait ils ont fondamentalement trahi leurs conditions humaines. C'est-à-dire qu'après au final, ce qui se venge c'est aussi... la nature sur eux-mêmes.
Alors le grand ressort dramatique, c'est quand même la peur des passagers, la peur du public aussi qui voit l'atmosphère monter, qui se demande ce qu'il va se passer. Il y a ces musiques un peu tristes, en même temps très belles. Il y a la lutte pour avoir de l'eau, pour avoir chaud, etc. Et finalement, on se dit que le grand moteur pour faire vivre l'action, vous parliez des baleines et de la difficulté de faire vivre ça au théâtre par rapport au cinéma, ce qui émerge, c'est la peur comme moteur.
C'était très important pour moi que la peur soit dominante, existante. Enfin, la peur et l'humour. C'était deux choses. Quand j'ai commencé à écrire Artic, c'était une volonté d'écrire une comédie. Et en même temps, je voulais qu'on ait peur et qu'on ait aussi peur que la peur que j'ai éprouvée quand je suis allée là-bas et quand j'ai vu la difficulté avec laquelle on allait pouvoir traiter ces enjeux-là. Et la vitesse à laquelle ces glaciers fondent, la vitesse à laquelle ces territoires sont en train de disparaître, la peur de... Je voulais que cette peur soit présente partout, à la fois pour le spectateur et à la fois, évidemment, pour les personnages qui se confrontent à la réalité de ce qu'ils ont mis en place et de leur responsabilité, finalement. Et après... je voulais aussi, à partir du moment donné où j'ai décidé que la peur était existante, c'est très ludique. Ça fait longtemps que je travaille sur la peur au théâtre et c'est très ludique de travailler sur la peur. Moi, j'adore les films d'horreur, j'adore les films à suspense, j'adore avoir peur, j'adore rire aussi, mais je trouve que dans les émotions, la peur est quelque chose qui est très... de l'éprouver au théâtre ou de l'éprouver à travers le cinéma ou même à travers des musiques, je trouve que c'est quelque chose de très salvateur, en tout cas qui nous permet parfois de la dépasser. Donc oui, il y avait cette volonté-là, et en même temps qui s'accompagne toujours d'un humour. obligatoire pour moi.
Obligatoire. Ouais. Il y a cette, vous parliez du geste artistique de transformation, hein, même si on se nourrit de l'actualité, vous en faites autre chose, Anne-Cécile Vandalem. Je vous propose d'écouter une archive d'Eugène Ionesco. C'est une archive qui a été diffusée à l'intérieur d'une émission Une vie, une œuvre, le 28 mai 2000. Et il va parler de rhinocéros et de la nazification qu'il décrit. Et comment est-ce que ce phénomène apparaît justement au théâtre ?
De plus en plus, nous étions comme entourés, comme assiégés par des gens qui pensaient autrement que nous. Et nous étions une trentaine à nous réunir, à discuter des choses et à trouver qu'elles étaient difficilement compréhensibles ou qu'elles étaient nuisibles. Et nous étions 30, nous étions 20. C'est comme dans la parodie du vers de Victor Hugo, en partant de Cadiz, nous étions 10, en arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. Eh bien, j'avais l'impression que les gens se transformaient sous mes yeux, et on pouvait diagnostiquer le moment où l'un d'entre nous allait passer dans l'autre camp, il allait se transformer. Il commençait par faire une concession. Il disait, bien sûr, l'antisémitisme est une chose odieuse. Cependant, nous ne pouvons nier que les Juifs, etc. Bien sûr, ce mouvement est absurde. Seulement, il s'explique par le fait que, etc. Et à un moment donné, la transformation se faisait de l'autre. On le voyait arriver, l'expression de son visage, l'expression de son regard avait changé.
Anne-Cécile Vandalem, on entend dans ces mots quelque chose qui fait penser aussi à Artic, de cette situation limite, extrême, dans laquelle se retrouvent vos personnages qui, eux aussi, sont en train de franchir une frontière, sont en danger pour leur propre vie, mais aussi se retrouvent dans une sorte de cauchemar écologique, environnemental, politique, financier, et qui sont un peu sur un système de bascule où on ne sait pas, dans leur passé, dans leur futur, ce à quoi ils appartiennent et vers quoi tend justement cette humanité-là que vous amenez sur ce bateau.
Je réfléchis parce que j'ai l'impression que la situation est un peu différente dans le sens où sur ce bateau, on assiste à une situation de crise. C'est une crise, donc la crise nous fait sortir de nos derniers tranchements et donc nous amène à nous déshumaniser, voilà, à devenir de moins en moins humain. Plus on s'approche de sa propre survie, moins on est humain, moins on prend en compte l'autre, moins le partage existe, la solidarité existe. Voilà, ça c'était un mot d'ordre que j'avais avec les acteurs, c'est pas de solidarité, jamais. Et plus l'humain est proche de sa fin, plus l'humain voit sa mort arriver, plus il se déshumanise. Et ça, c'est un sujet, c'est glaçant, ça fait très peur, parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train d'observer. On est en train de l'observer un peu partout autour de nous, sur d'autres questions que celle-là. Mais à la différence que je pense qu'actuellement, dans la situation actuelle, on n'est pas encore suffisamment en situation de crise. Et c'est ça qui fait peur. C'est que là, j'ai l'impression qu'on parle presque plutôt d'une question d'habituation. En fait, comment l'homme accepte de plus en plus des situations qu'on n'aurait pas acceptées même encore parfois. Maintenant, j'ai l'impression que même le temps se resserre. C'est-à-dire qu'on se dit, mais l'année dernière, on n'aurait pas accepté. Maintenant, on l'accepte. Avant, on disait, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 40 ans. Et en fait, ça se rapproche. Mais on n'est pas encore en situation de crise. On n'est pas encore les conditions ne sont pas encore réunies pour que les hommes sortent de leur retranchement et montrent vraiment de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils vont vraiment se déshumaniser, ou est-ce qu'ils vont peut-être, je l'espère, au contraire de ce qui est dans mon spectacle, rassembler les forces pour se réhumaniser, parce que j'ai l'impression qu'il faut que les conditions soient réunies pour ce qu'on appelle cette révolte, enfin ce refus, etc. Et tant que ces conditions-là ne sont pas réunies, alors on a des phénomènes d'habituation, je pense, où on accepte petit à petit. Ce qui n'est pas complètement le cas ici. Enfin, en tout cas, le point de vue que je prends dans Artic, effectivement, c'est le danger et l'approche de la mort fait que les hommes deviennent
De moins en moins humain.
De moins en moins humain, oui.
Anne-Cécile Vandalem, est-ce que justement vous vous sentez comme dans un rôle de lanceur d'alerte, d'une certaine manière, à imaginer des choses suffisamment proches pour qu'elles puissent encore permettre peut-être une réaction? Et en même temps, il y a quelque chose de très alarmant dans le délai si court pour établir des situations finalement dramatiques. Alors, c'est la question des guerres économiques, mais c'est aussi des questions de corruption, des questions de malveillance politique que vous soulevez aussi. Est-ce qu'il y a justement cette urgence du délai qui intervient, comme celle d'un lanceur d'alerte ?
Oui, enfin, l'urgence du délai, elle est réelle. C'est-à-dire sur certaines questions très précises, notamment l'indépendance du Groenland, la répartition des territoires arctiques. Est-ce que l'Europe et le Danemark vont, par exemple, abandonner ou laisser le Groenland, par exemple, au profit des États-Unis? Est-ce que, enfin, il y a toute une série de questions très, très, très concrètes qui vont se décider dans les même plus 5 prochaines années. Donc ça, c'est très précis. Après, la question de la corruption, la question de l'engagement politique, la question de la trahison, la question de toutes ces questions-là sont des questions qui il faudrait pouvoir changer la direction maintenant, c'est-à-dire le plus vite on arriverait à changer cette direction, au mieux on s'en porterait, mais les délais sont différents. Je ne sais pas si je pense que c'est à la fois c'est très naïf et voilà c'est aussi très enfantin, mais c'est quand on croit aux histoires, c'est l'enfant aussi voilà qui croit à la force des histoires. Je crois à la force des histoires, mais oui, je pense que quelque part en moi j'espère encore que en imposant un délai très court, on puisse accélérer en fait le processus de prise de décision. Mais pour ça, il faudrait que le théâtre puisse avoir cette faculté de puisse être à ce point efficient qu'il puisse réveiller ou en tout cas mobiliser les gens.
Vous le faites, vous y croyez un peu quand même.
Oui, bah oui. Si je le fais, c'est que j'y crois, mais il y a toujours une partie de moi qui reste sceptique, mais qui continue à le faire. De toute façon.
Il y a quand même un travail très fort sur l'atmosphère. Les sujets sont des sujets politiques très sérieux, mais en réalité, ils apparaissent très peu dans les dialogues. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà par les corps et par des situations où on a peur, on crie, le cri de l'un fait rire l'autre, etc. Donc en réalité, c'est un travail atmosphérique que vous faites sur ces musiques. Il y a une chanteuse, qui est la même d'ailleurs que dans Tristesse, une jeune chanteuse qui chante de très belles chansons, un peu tristes. Il y a ce vieil orchestre au fond, vous faites un travail plutôt de, oui, atmosphérique qui noie aussi un peu le spectateur, qui l'embarque dans son huis clos.
Oui, c'est vrai que effectivement, il y a tout ça et quand même, mais c'est de la poésie. Enfin, moi, j'appelle ça aussi de la poésie, c'est-à-dire que je travaille aussi à. C'est une traversée que le spectateur fait. Donc, effectivement, les sujets ne sont jamais abordés de façon frontale. J'aborde jamais les sujets de manière frontale, de manière. Je fais pas un théâtre militant. Je fais pas un théâtre documentaire. Je pense que la. Ce que par exemple Mona Chollet appelle la tyrannie de la réalité, c'est-à-dire que l'absolue nécessité de coller systématiquement au réel et de nous ramener systématiquement au réel est un très grand et très nocif. Et donc, si je m'empare de sujets du réel, j'ai besoin de les mettre dans un contexte fictionnel et poétique qui permet simplement de pouvoir chacun se détacher, c'est-à-dire recevoir en même temps les informations, recevoir les problématiques et en même temps pouvoir faire son propre chemin, sa propre interprétation. Cette forme de transcendance que moi j'essaie d'opérer par l'écriture, j'espère aussi que le spectateur peut le faire simplement parce que les choses ne lui sont pas données frontalement. Et parfois, on peut le penser enrobé dans une forme d'atmosphère. Je pense que, pour moi, ça, c'est la vie, en fait. C'est-à-dire le fait de passer du rire aux larmes, le fait d'avoir en même temps une musique qui accompagne un sujet tragique.
Et son regard aussi qui se pose tantôt sur la vidéo, tantôt sur les comédiens sur le plateau. Il est pris entre plusieurs regards, il a le choix entre plusieurs supports aussi, qui permettent aussi une sorte d'envolée. émotionnel, Anne-Cécile Vandalem.
Oui, parce que je pense que d'abord le théâtre, enfin pas que, mais le théâtre est aussi là pour créer des émotions. Je pense qu'on en a besoin. Et donc effectivement, l'émotion, elle se trouve à travers ça. C'est en laissant le spectateur libre, mais en lui donnant aussi la liberté, c'est aussi la responsabilité. Donc à la fois, lui donner cette liberté-là, c'est lui donner aussi la responsabilité de choisir ce qu'il regarde et de choisir comment il regarde. Et donc de nouveau, de ne pas donner les choses de manière frontale, mais d'offrir la possibilité de faire son propre chemin à travers ça.
Merci Anne-Cécile Vandalem, merci d'être venue aujourd'hui. Je rappelle que votre pièce Arctique est à retrouver à la Fabrica d'Avignon jusqu'au 24 juillet prochain, puis en tournée du 21 au 24 novembre au Théâtre de Liège, du 8 au 11 janvier ce sera au Célestin de Lyon, puis du 18 janvier au 10 février ce sera au Théâtre de l'Odéon, et d'autres dates qui seront disponibles sur notre site.
Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy, bonne nuit les petits. Shanghai, Toussaint-Tire, iPad et fossiles, un rien nous habille. Je n'ai plus de famille. Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy, quel est mon pays? Où est ma capsule? Mon cap canavéral, seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Shanghai dans l'arène, en Porsche Cayenne, carrosse de reine, les autres en quarantaine. Size à la yacht, pétrole et nitrate, la nuit qui nous gâte. Où est ma capsule? Mon cap canavéral, tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Thank you.
Bambi Galaxy, Florent Marché.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Comment faire d'un geste sportif un geste artistique? C'est la question que pose Sans Maître Papillon, la création que présente Maxime Tafanel à la Manufacture d'Avignon. Ancien nageur, le voilà désormais sur les planches, porté par le collectif Colette, pour nous faire écouter la musique aquatique qu'il a si longtemps bercée. Maxime Tafanel, bonjour.
Bonjour.
Je commence par trébucher sur votre nom.
C'est formidable.
Ça commence bien.
Ça commence très bien.
Alors peut-être nous raconter déjà votre l'idée de cette création qui est à la fois la vôtre et inscrite dans ce collectif Colette avec lequel vous travaillez maintenant.
Ben, en fait, pour tout vous dire, avant d'être comédien, j'étais nageur à Montpellier, nageur de haut niveau. Pendant toute ma scolarité, de la 6e à la terminale, j'étais en section sportive. Donc j'ai nagé 2 fois par jour pendant de très longues années, beaucoup de kilométrage. Et puis à un moment, cette pratique sportive a commencé à devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a cette histoire de progression qui n'est pas souvent là. On est toujours en train de douter sur ses propres sensations et tout d'un coup, on a tellement été porté par l'eau que on est déçu. On se dit qu'on a fait tellement de sacrifices pour elle, pour l'eau, et sentir qu'elle ne nous le rend pas, c'est difficile parce qu'il y a une vraie communion entre l'eau et le nageur, et c'est une forme de rupture. Donc moi j'ai senti cette rupture là, et heureusement pour moi j'ai une famille d'artistes où j'ai pu toujours être baigné dans l'art, dans la culture, dans le théâtre.
Décidément, on est toujours immergé dans le langage. Hein.
Oui, voilà. Vous m'avez perturbé.
Donc, vous avez pu, grâce à votre famille d'artistes, transcender cette rupture-là avec le milieu.
C'est ça, exactement. En fait, ça m'a fait du bien parce que j'ai théâtralisé mon expérience sportive et je l'ai amené sur un plateau et je me suis rendu compte que les gestes d'un nageur sur un plateau, ben c'était des gestes glissés, très fluides, pas de choses bloquées, droites, c'était assez léger, voilà. Et puis donc j'ai écrit ce texte après ma formation à l'ENSAD et à la Comédie Française en tant qu'élève comédien.
Alors il y a ce double trajet, c'est un trajet autobiographique en réalité que vous racontez. Vous avez vraiment arrêté la natation pour devenir comédien et pour faire partie de ce collectif de théâtre et fait la formation qui va avec. Mais vous avez aussi décidé d'écrire cette fiction-là en créant un personnage qui vous ressemble beaucoup mais qui est Larry.
C'est ça. Il s'appelle Larry, ce personnage. Parce que quand j'ai commencé à écrire ce texte, je voulais appeler ce personnage Maxime, comme moi, mais c'était très difficile pour moi de me mettre dans mon propre rôle, dans mon propre moi. Parce que ma véritable histoire, elle est autre. Moi, je n'ai pas arrêté violemment la natation, j'ai changé d'entraîneur pour en trouver un nouveau qui m'a réappris à glisser, à retrouver des sensations perdues, à oublier le chronomètre. Et ça, raconter ça au théâtre, c'est un peu dommage parce que ça fait un peu redondance. Vous voyez, c'est j'arrête, mais je n'arrête pas parce que je vais voir quelqu'un d'autre et finalement, c'est génial, j'arrête la natation avec le sourire. Non, on voulait vraiment une radicalité. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Larry, ce personnage. Voilà. Et c'est en hommage à Ariel Garcia Valdez. C'est mon directeur de l'ENSAD. En inversant les lettres d'Ariel, ça donne Larry. Voilà, c'était
votre hommage.
Voilà, un petit hommage pour moi.
Alors, il faut dire que l'eau sur scène et dans le texte devient un sujet extrêmement poétique, puisque vous nous racontez l'eau telle qu'on ne la vit pas quand on n'a pas eu cette expérience-là de nageur. C'est-à-dire que l'eau, ça devient à la fois une musique, une ondulation, des glissades, tout un univers dans lequel vous nous immergez. Vous êtes seul sur scène.
Oui.
Il n'y a pas vraiment de costume, il y a juste votre tenue.
Oui, un survêtement et un maillot sous le maillot.
Et pas de décor non plus.
Pas utile.
Donc ce matériau-là, c'est à la fois la puissance de l'évocation de par votre corps et aussi la manière dont vous racontez l'eau.
Oui. C'était important pour moi de faire un plateau nu et d'imaginer l'eau. Pas mettre des artifices comme une ligne d'eau ou des images qui seraient projetées sur les murs. Vraiment, l'immersion est totale. Et en fait, avant d'apprendre à nager dans l'eau, on répète énormément les gestes en dehors de l'eau. Et c'est ça qui m'a parlé aussi, qui m'a fait faire, voilà, qui m'a fait prendre cette décision-là, de ne pas mettre de décor. C'est tout peut être fait dans l'air. Et c'est ça le théâtre, c'est qu'on peut imaginer tout d'un coup un bassin immense de 50 mètres avec Michael Phelps, avec un commentateur fou, avec un coach qui donne des directives, avec des nageurs qui vont partir pour un 100 mètres papillon. Toutes ces choses-là, le théâtre nous permet d'économiser le maximum d'espace et d'artifice. Pour raconter tout ça.
Pour le spectateur, ce qui est saisissant, c'est ce que devient l'eau pour vous. Alors vous, l'eau, vous en parlez comme si c'était un phénomène, alors pour nous tous, hein, qui date d'avant la naissance, mais vous, il y a cette image comme ça paternelle d'un père qui a pu vous prendre par la nuque et vous baigner dans l'eau. L'eau, ça, c'est un souvenir lié à tout.
C'est ça. Et en fait, déjà, le prologue de mon spectacle commence comme ça. Il y a elle, calme, toujours, et moi, inquiet, quelquefois. C'est toujours une forme de... C'est une rencontre. L'eau, ça a été une rencontre charnelle. C'est simple, c'est... Si on est brusque dans l'eau, si on se débat, on coule. Et si on est léger, si on l'écoute, on la sent, on étend ses gestes, on la caresse, et ben là, il y a... Tout d'un coup, il y a une... On est porté, on glisse. C'est ça la natation. C'est avant d'apprendre à nager vite et à nager brutalement, pour des temps, on apprend à nager lentement, en sentant chaque geste, chaque poussée, chaque parcelle d'eau qui passe entre les doigts. C'est des choses comme ça. Alors après, mon père m'a tout petit m'a amené à la piscine et m'a porté sur le dos en me tenant légèrement par la nuque. Il me faisait glisser et je dormais et je sentais le courant. Je sentais que cet élément-là, si on est relâché, si on est détendu, ben il nous le rend, fois 10. On peut s'endormir.
Il y a ces images qui viennent. Comment vous vous sentez dans l'eau? Alors, dans le texte, justement, ce champ-là, il est largement creusé, mais c'est des images un peu surprenantes. On a évidemment des images de grands bleus, des grands souvenirs cinématographiques, de monde aquatique aussi, dans l'univers de la fiction, moins au théâtre. Et là, il y a tout un vocabulaire de se sentir, par exemple, comme un serpent dans l'eau,
oui.
Maxime Tafanel. Pourquoi le serpent?
Quand mon père me faisait flotter sur le dos, il me faisait onduler. Et c'était comme si j'étais un serpent à la surface de l'eau. Et c'est pour ça que ça m'a parlé. Cette image-là me parle en tant que serpent. Oui, en tant que serpent aquatique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs termes encore. Il y a... Comment dire ?
Il y a toute cette musicalité que vous retranscrivez aussi, hein, de ce que l'on entend sous l'eau. Votre travail avec le collectif Colette remonte maintenant à quelques années. Il y a quelques pièces qui ont été faites avant. C'est la quatrième du collectif,
crois. C'est ça.
Vous avez eu d'autres expériences théâtrales. Quelle particularité ça a été pour vous, justement, que de transférer votre univers aquatique, mais qui est aussi votre univers à vous, sur scène, alors que vous aviez joué des histoires d'amour, vous aviez joué une adaptation de Pauline à la plage, hein, qui est en référence au film de Romer, Maxime Tafanel.
Ça a été abyssal de se lancer dans l'écriture de ce projet et de se dire, voilà, on a fait plusieurs spectacles collectifs et tout d'un coup, moi, j'avais besoin de me raconter et de raconter cette vie que j'ai eue. Il est arrivé en fait un moment dans ma vie de comédien où je n'avais pas de travail, un an sans rien, et j'attendais le coup de téléphone. Et je me suis dit, mais c'est maintenant peut-être qu'il faut que je me lance dans l'écriture de mon projet. Et j'ai fait appel aussi à Nelly Poulicani, qui fait partie du collectif, qui a mis en scène le spectacle. Et elle a fait un travail fabuleux. Elle a tout réagencé. Elle m'a parlé, elle a fait un peu... C'était un peu mon coach, mais un bon coach, gentil, vieux.
Alors vous parlez du coach, parce que le coach est une figure importante de votre spectacle. Hein. Le monde de la natation va avec aussi son lot de personnages et de stéréotypes. Alors le grand nageur, costaud, et il y a le coach. Alors on va écouter le coach.
Alors, Ce soir, au menu, 10 fois 50 spé, départ la minute, zone 4. Chant souple, 10 fois 100 spé, départ une 30, zone 4. Chant souple, 200 spé, départ plongé, zone 4++. Chant souple. À faire deux fois. Je vous cache pas que c'est assez relevé. On part sur quelque chose de robuste, de charnu, d'épicé, un poil agressif, mais on garde l'appétit, les gars. Les dosistes, je pense à la tête, je garde l'alignement, je les roule et je prends de l'eau. Papillonneur, je veux de la puissance, je veux du rythme. On accentue les ondulations et on tient la respiration de temps. Larry, va chercher loin, pense au coude. Je veux voir un albatros, brasseur, puissant, puissant. Et je lève et j'appuie, et je lève et j'appuie. On pense au ciseau, ça coupe. Colin, n'oublie pas. Crawler. Roulement d'épaule, je veux du caractère. Focalisez-vous sur votre nage. Respiration trois temps. On équilibre droite-gauche. On ne tombe pas dans la routine du deux temps. Battement régulier et ça avance. Marie, pense au roulement d'épaule. Sinon après, tu nages en rattrapé. Et t'as pas d'efficacité. J'enclenche. Faut penser lion. Faut penser tigre. Ça avance.
Faut penser lion, faut penser tigre. On ne comprend pas toujours les images que convoque le coach.
Bien sûr. Quelle surprise.
Et le coach, c'est à la fois un personnage assez attendrissant parce que il y a une figure paternelle qui vous appelle bonhomme, etc. Mais c'est quand même celui aussi qui vient assigner l'obligation de performance. Et ça, on comprend au fur et à mesure de la fiction, Maxime Tafanel, que il y a la souffrance du corps aussi dans cette compétition sportive et la souffrance d'un objet particulier, le chronomètre.
Bien sûr, le coach est tellement investi. Personnellement, il pense entraînement, il rêve entraînement. Il organise sa journée, il attend beaucoup de ses nageurs, le matin, le soir. Un mauvais entraînement, pour lui, ça le remet en cause. Il réfléchit, ça le remet en question. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en compétition, il n'a pas fait ce temps-là, alors qu'il s'est très bien entraîné avant? Et ça lui, il est aussi impliqué que le nageur. Donc des fois, il y a un moment où l'incompréhension fait place à la colère, mais c'est une colère justifiée, parce que nous aussi on est complètement désorganisés, on comprend pas ce qui se passe, on se dit mais je m'entraîne de plus en plus dur, je m'entraîne tous les jours à 5h du matin, des kilomètres dans l'eau, j'aurais pu aller jusqu'en Australie si j'avais aligné tous les kilomètres à la suite, et je suis resté là dans ce bassin à compter les carreaux, et le coach qui est toujours là à donner les chronos, parce qu'il a besoin de ça, c'est... Ça dépend lesquels. Après, ce personnage-là, je voulais vraiment en faire une figure d'autorité théâtrale, forte. Mais ils ne sont pas tous comme ça.
Non, mais là, la dimension, justement, narrative, c'est aussi de montrer comment, finalement, cette manière de découper le temps, cette manière de vivre le temps qui est celui du nageur, persécuté par la montre... Ça peut devenir une manière de découper aussi le temps de la scène, d'organiser la narration. Et ce transfert-là, vous avez décidé de le faire autour de la montre, du chrono, de l'exercice de la compétition à laquelle on assiste.
Bien sûr. Mais tout est... On répète tellement les mouvements, des heures et des heures, qu'à la fin, on a un propre rythme personnel, un rythme aquatique. On sent quand on est dedans ou quand on passe à travers. Et c'est pour ça, moi, je voulais expliquer ça dans ce spectacle. C'est découper une culbute en disant, voilà, l'approche du mur, c'est une croche. Le retournement, c'est un soupir. Le toucher du mur, c'est une croche. La poussée, c'est une blanche. La coulée, c'est quatre croches. Et la reprise de nage, c'est une noire.
Alors, la culbute, c'est le moment où on se retourne dans l'eau pour repartir dans l'autre sens.
C'est le virage. Et je voulais pas que ce soit un spectacle élitiste, c'est-à-dire réservé aux sportifs. Voilà, les petites blagues privées, les private jokes de nageurs. Je voulais vraiment rendre ça très ludique. Parce que la natation, c'est tellement du rythme, tellement de la musique. On a une vraie musicalité dans la tête. On sent quand on y est ou quand on n'y est pas, quand on passe à travers ou quand on s'enfonce, selon l'appui, selon la façon qu'on a de respirer, le rythme, on respire à 3 temps, ou à 2 temps, ou à 4 temps, ça dépend les nages, on respire pas des fois.
Et puis à ce rythme étouffé sous l'eau, je vous propose d'écouter Gilles Grand, il parle des sons de la piscine et de la musicalité de l'eau.
Moi, j'ai toujours constaté que quand j'étais dans une piscine publique, je passais plus de temps sous l'eau qu'à la surface. Et il y a très peu de temps, en m'intéressant plus précisément au son, je me suis rendu compte que c'était nettement plus inconfortable. Le son est assez détestable, en fait, à la surface d'une piscine, surtout les piscines publiques et fermées. Parce que c'est des sons très médiums, toutes les choses sont réfléchies parce qu'il y a des carrelages partout, et un son très chargé, très très touffu. Alors qu'une fois qu'on est dans l'eau, en dehors, bon, du bien-être, de l'eau et tout ça, il y a une réduction, il y a une courbe de réponse qui est beaucoup plus intéressante, qui laisse que des aigus et des phénomènes très graves. Sous l'eau, c'est des sons mats, c'est des sons très dynamiques. J'ai constaté aussi que sous l'eau, dans une situation de concert subaquatique, c'est-à-dire où il y a des haut-parleurs qui sont sous l'eau, plein de fréquences sont très très douloureuses parce qu'elles sont étonnamment renforcées par ces haut-parleurs, alors que les vibrations de l'eau normalement font une espèce de courbe de réponse qui est plutôt flatteuse et très creuse. Et il y a comme si les choses étaient, si c'était une membrane, si on parle en membrane de haut-parleurs, les choses sont beaucoup plus dynamiques. L'onde sous l'eau paraît beaucoup plus atteint beaucoup plus le tympan. Il y a une sorte de... En rock, on dirait pêche. Il y a une sorte de pêche sous l'eau.
Maxime Tafanel, on entend donc Gilles Grand, le grand compositeur qui était dans les Nuits Magnétiques de France Culture le 17 juin 87. Sa description des sons, est-ce que vous avez vécu cette même musicalité, vous, sous l'eau? Alors la différence entre la musicalité dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, sur le bassin de la piscine, cette qualité justement d'envoûtement que peut avoir l'univers... justement de l'eau quand on est immergé.
Puis c'est très poussé ce qu'il a dit, c'est vraiment bien. Je me suis rendu compte d'une chose en passant de la natation au théâtre, c'est qu'un geste, est très bruyant dans l'eau. Et sur une scène, faire ça, faire un geste en disant bonjour, il n'y a pas de bruit, mais sous l'eau, ça déplace un corps. Ça perturbe l'équilibre. Et c'est ce qui a fait que j'essaye au maximum de rester ancré sur un plateau, parce que là, je sais que je ne bougerai pas, sur scène comme dans l'eau. Et ce monsieur a parlé du son. Moi, je vois aussi les images au ralenti. Quand j'étais tout petit, que je me baladais entre les gens, je regardais les gens qui déambulaient. Entre mes bulles, ouais, sous l'eau, je voyais, vous savez, c'est des pas de dinosaures, enfin c'est au ralenti, on croirait qu'ils sont sur la lune, je me croyais dans un autre univers. Et ce son-là, on entend quand le pas heurte le carrelage, c'est des sons très, très sourds, très mats, comme il dit. Ouais.
Alors il y a ce travail de mime, vous mimez beaucoup en même temps que vous parlez.
Ah pardon, je ne peux pas faire autrement.
Non, c'est bien. Et dans votre spectacle aussi, le corps est très présent. Le corps que vous accompagnez de bruits que vous fabriquez. C'est-à-dire que finalement, peut-être la meilleure manière de transmettre l'eau telle que vous l'avez expérimenté, Maxime Tafanel, c'est de faire soi-même les bruits avec sa bouche.
Bien sûr, c'est important. C'est une coulée, vous savez, c'est l'ondulation du dauphin, hein.
Vous nous faites ce gimmick poétique que l'on retrouve dans la pièce, peut-être pour qu'on l'entende?
Oui, bien sûr, j'allais vous proposer. Donc l'ondulation, ça fait... Donc c'est un... Voilà, c'est ce son-là. Et puis, quand on nage en compétition, il y a du bruit à l'extérieur, et puis la tête, elle est engloutie dans l'eau, on est encore en coulée, on va bientôt remonter à la surface, et à la première respiration, on entend le son faire... Et à la respiration, ça fait « cha ». Et on entend les « allez, allez » à chaque respiration. À chaque moment où on sort la tête de l'eau, on entend le « waah, waah, waah ». C'est incroyable, cet univers aquatique.
Et d'ailleurs, ça fait naître d'autres images, puisque vous entendez aussi les bruits de l'extérieur étouffés. Et à partir de là, il y a tout un imaginaire qui naît sur la scène théâtrale, celui de la mer dans les gradins, celui du coach, c'est des bruits que l'on entend de l'extérieur, passés par justement ce crible, ce tamis de l'eau.
Ah, bien sûr. C'est un mélange de cris, de sifflets, d'encouragement, et puis il y a le... le bruit de l'eau en même temps, tout, c'est infernal. Quand on est spectateur d'une compétition, il faut vraiment se préparer, il faut rester concentré parce que on se prend la tête tellement c'est bruyant. Mais le nageur, lui, n'entend rien. Et le moment de pure liberté, je trouve, pour un nageur en compétition, le moment du choix, c'est-à-dire quand il commence sur le plot, avant de partir, il y a un silence. À vos marques, coup de sifflet, et au coup de sifflet, tout le monde fait « Ouh !» Et au moment où on rentre dans l'eau, plus rien. Et ce léger temps, avant d'enclencher l'ondulation pour remonter à la surface, il est incroyable. Il dure une seconde, et à ce moment-là, on se dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste ici, sous l'eau, comme ça ?»
À profiter de l'eau, à profiter de cette atmosphère-là.
Voilà, profiter de ça, quitte à me faire engueuler par mon entraîneur, mais rester juste glissé comme ça, j'en ai marre de nager. J'en ai marre de faire des mauvais temps, j'en ai marre de lutter constamment. Si je restais là, juste là, en train de glisser, et en essayant de retrouver la main de mon père qui me faisait glisser sur le dos, en essayant de retrouver les moments où tout était simple, où un mouvement découlait d'un autre, c'était naturel, la nage était naturelle, il n'y avait pas de muscles derrière, il n'y avait pas d'entraînement intensif, il n'y avait pas de séance de musculation qui transforme un corps et qui le rend compact et qui change le rapport à l'eau. C'est ce moment-là de glisse, il est incroyable. Alors après, évidemment, on est rattrapé par la réalité, on se dit, je dois remonter à la surface, parce que je ne respire pas sous l'eau. Mais je crois, moi je sais, je le dis dans le spectacle, je sais que j'ai respiré sous l'eau. Alors dans un rêve, peut-être, mais je sais ce que ça fait. Et même si on me dit, voilà, je sais que c'est pas humain de respirer sous l'eau, mais je sais ce que ça fait de respirer sous l'eau, parce que je l'ai rêvé et je... Cette sensation-là me traverse encore et voilà, j'ai hâte de rêver de ça une prochaine fois.
Maxime Tafanel, est-ce que le passer justement d'un geste de nageur à un métier de comédien, d'artiste, est-ce que ça a été justement renoué avec ce plaisir, le plaisir des sensations, le plaisir du corps, le plaisir de la voix, puisque finalement la natation à un moment donné a été un objet de saturation pour vous, ça a été aussi un objet de renoncement personnel. Est-ce qu'il y a eu ce retour au plaisir même du corps à travers le métier du théâtre?
Bien sûr. Le plaisir du corps, il a toujours été là parce que mes parents, danseurs, m'ont appris à bouger, à me mouvoir dans l'espace. Donc j'ai toujours aimé faire ça, me déplacer. Et ce transfert-là de l'eau à la scène, il a été vital. Pour moi, j'avais l'impression de retrouver la glisse dans l'eau. C'est-à-dire, sur un plateau, justement, mes gestes, les gestes de nageur assez relâchés, faisaient que j'avais l'impression de glisser, comme dans l'eau. Donc, je n'étais pas vraiment perturbé. Ce qui me perturbait plus, c'était plutôt mes épaules qui étaient très... la musculature du nageur, c'était des épaules assez rigides. Et j'avais l'impression d'être une armoire à glace sur un plateau. Et j'étais très maladroit physiquement. Donc, j'ai appris à me décoincer. Mais quel plaisir d'être sur un plateau pour raconter la natation.
Il y a eu aussi d'autres expériences de théâtre. Il y a des expériences qui racontaient justement des histoires d'amour, des histoires autres avec le collectif Colette. Oui. Alors là, qu'est-ce que justement vous avez pu vivre comme expérience théâtrale autre que la natation, détachée de ce passé-là, Maxime Tafanel?
J'ai pu faire des mises en scène avec des metteurs en scène comme Marc Paquien, comme Jean-Louis Benoît, comme Katia Ferreira, comme différents metteurs en scène qui étaient à l'ENSAD, André Vims, Evelyne Didi, Georges Lavaudan, tous ces gens-là m'ont apporté Cyril Test, tous ces gens-là m'ont apporté un univers nouveau à découvrir. Et ça fait que voilà, ça a nourri aussi mon spectacle et mon envie d'écrire sur la natation. Écrire une chose nouvelle. Écrire une forme nouvelle, un théâtre mouvementé. Un théâtre de sensations.
Et qui paradoxalement revient lui aussi à la natation. Je vous propose d'écouter Michel Schneider. C'était justement l'écrivain Michel Schneider dans l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter le 19 août 2014.
la sensation de nager, c'est-à-dire de retrouver qu'on a un corps. Dans beaucoup d'activités dans la journée, surtout quand on est intellectuel, on peut oublier qu'on a un corps. D'ailleurs, parfois, on cherche à oublier qu'on a un corps en écrivant. Et là, on est rappelé à soi et à quelque chose de tellement fondamental. Enfin, je ne vais pas faire le couplet sur le liquide amniotique.
Bah si, justement, j'allais vous poser la question, c'est des sottises, tout ça.
Il y a probablement quelque chose d'un plaisir primaire, très ancien, archaïque, qu'on retrouve à la fois dans un milieu qui est porteur et dans lequel on peut exercer le plaisir musculaire, de se mouvoir, de mouvoir ses bras et ses jambes. Et sauf si on conçoit ça comme un châtiment et qu'on fait 14 longueurs d'affilée, si on en a les moyens physiques, c'est un plaisir inouï d'être à la fois enveloppé, porté à la surface d'un élément qui peut être aussi dangereux. C'est probablement aussi une image d'échapper à l'eau noire de la mélancolie, par exemple. Et une chose que je ne peux pas faire, c'est me baigner dans la mer la nuit. C'est terrifiant. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir de cette noirceur, de ces profondeurs, de ces abysses? Et là, je crois que la piscine, c'est un côté rassurant, quand même. D'ailleurs, pourquoi tes piscines ont toujours un fond bleu?
Maxime Tafanel, on entend dans cet extrait justement le versant noir de l'eau, inquiétant et mélancolique. Est-ce que justement l'eau ne peut pas, enfin dans votre spectacle, on ne peut s'empêcher de penser à une immense métaphore à travers justement cette image de l'eau, mais aussi cette image de rupture justement qui a été enclenchée. Comment est-ce que vous voyez ce qui vient d'être dit par Michel Schneider, ces eaux angoissantes, stagnantes, sombres?
Ah mais...
Elles ont été inquiétantes pour vous aussi, ces eaux-là.
Bien sûr, mais vous savez, quand on passe des années dans l'eau, on la voit belle, et puis quand elle ne nous le rend pas, quand on sent que c'est dur, elle s'assombrit, et nous aussi on s'assombrit. On se transforme en... Voilà, on ne voit plus rien. Et quand on arrête ce sport, eh ben, on peut être dégoûté. Cette eau, elle n'est plus aussi fluide, c'est comme du pétrole, elle est aussi dense que du pétrole, et on a l'impression de s'extirper d'une chose tellement marécageuse. Donc on passe des années à ne plus toucher l'eau, à ne plus la revoir, à ne plus la sentir, parce que l'odeur de l'eau, le chlore, on la connaît par cœur, cette odeur, elle reste dans la peau. Moi, je l'ai eu des années, cette odeur. J'avais les lunettes marquées par le chlore. J'avais
la marque des lunettes.
Mon visage marqué. J'avais les cheveux argentés, paille. Mes cheveux, je pouvais pas les coiffer. Ils bloquaient. Ils étaient tous secs. J'avais le goût du chlore dans la bouche pendant des journées, des années. Donc
mais ça, c'est ce que fait l'entraînement intensif, c'est ce que fait l'exigence de performance, c'est ce que fait la souffrance physique aussi, que de devoir faire toujours et pour un score particulier.
Bien sûr, mais le bonheur, en fait, le plaisir, ce qui m'a sauvé, ce qui a fait que j'ai adoré la natation et que j'ai pu réapprendre à nager comme je le souhaitais, c'est la distance, prendre la distance, et après des années de kilométrage, retrouver l'eau dans un bassin côté d'Avignon et se dire je vais faire 3 km parce que si je fais pas 3 km, je vais pas être assez entraîné et c'est pas bien. Le plaisir immense, c'est de faire des 25 mètres ou des 50 mètres glissés en disant tiens, là je fais sur un 50 mètres, je fais 20 mouvements, et si j'en faisais 15, et si j'en faisais 12.
Et d'amener l'eau aussi ici à Avignon.
Oui, il y en a une pas très loin de piscine. J'ai nagé avec des amis là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas nagé. Ça doit faire peut-être 5-6 mois. Mais je nage tellement sur ce spectacle, physiquement, que quand je retrouve l'eau, j'ai l'impression que je n'ai jamais perdu. Les gestes sont toujours là.
Vous êtes devenu un nageur terrestre, un nageur théâtral.
Mais le plaisir, c'est d'oublier le chronomètre, d'oublier le kilométrage et juste de prendre son temps. D'étendre le temps, son propre... Ouais.
Merci Maxime Tafanel d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes actuellement à l'affiche du festival OFF avec votre pièce 100 mètres papillon qu'on pourra voir à la Manufacture d'Avignon jusqu'au 26 juillet. Je vous donne rendez-vous quant à nous demain à 12h45 pour parler de secrets de famille au théâtre avant de faire le portrait du chorégraphe Emmanuel Gatt. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne-Toscane Diudès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation, Marie Placé. À la technique, Georges Thau et Benjamin Perru. À la sonorisation, Benjamin Thiau. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.